Aujourd'hui, pour le sujet, comme qu'on a vu au début de la réunion, on va parler du fait de se rapprocher du Seigneur. C'est que c'est le devoir des chrétiens de prendre du temps pour se rapprocher du Seigneur, pour garder le contact, garder la communion avec le Seigneur. Chercher être un disciple attaché au Seigneur. Juste là, ce mot, cette phrase-là, là, ça en dit long. Parce que tu peux être un disciple détaché. Tu sais que le Seigneur existe, tu sais que tu as donné ta vie, mais tu t'en occupes pas, tu passes tes grandes journées sans jamais penser au Seigneur. T'es-tu connecté? T'es-tu attaché? Non, t'es détaché. Puis il faut apprendre à s'attacher. Il faut apprendre que pour s'attacher, t'attaches une corde, puis tu t'attaches, là, tu peux pas te décoller de là, t'es attaché. Mais attaché au Seigneur, c'est, tu t'accroches à lui, puis tu lui parles, puis tu gardes le contact. Le chrétien et ses responsabilités, on va regarder ensemble que le Seigneur s'attend à ce que chacun de ses enfants s'attache à lui de plus en plus. Parce que, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais dans le Seigneur, il y a une croissance. Il y a une croissance, puis il y a du fruit qu'on porte, puis on a vu dans le premier verset qu'on a vu avant réunion, que Jésus dit qu'on, si on n'est pas attaché au cèpe, on n'en porte pas de fruits. Puis si tu veux grandir dans le Seigneur, si tu veux expérimenter des choses dans le Seigneur, si tu veux que vivre de plus en plus de belles choses par la puissance du Saint-Esprit, tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles dans ce sens-là. Parce que si tu ignores cela, notre croissance vient du Seigneur. Tout vient du Seigneur. Fait que si on néglige ça, c'est comme tu dis, moi, je ferme le robinet de l'eau, puis je bois plus. Mais là, quand tu vas me finir par avoir soif, par avoir bien soif, tu vas devenir déshydraté, puis tu vas tomber à terre sans connaissance, après ça, tu vas mourir si tu bois pas. Boire au Seigneur, c'est la même affaire. Ouvrir le robinet du Seigneur, c'est d'aller s'abreuver aux eaux que le Seigneur donne. Il dit, c'est une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Là, on parle des gens qui veulent boire. C'est ça qui est le point. Il faut boire à ces eaux. Vous savez qu'avant de connaître le Seigneur, on marchait dans l'égarement. On était égarés, là. On marchait selon nos pensées puis notre volonté, puis on était sur le chemin de la perdition. Parce qu'on marchait dans nos idées, on était égarés. Égarés, c'est que tu sais pas où tu t'en vas. Tu n'es pas attaché à personne, tu n'es pas attaché à rien, mais tu sais pas non plus où tu t'en vas parce que tu reconnais rien puis tu es perdu. Et où est-ce que ça mène au bout du chemin? Tu tombes dans la perdition éternelle. On était comme ça avant de connaître Jésus, avant qu'on entende parler. C'est ce que ça nous dit dans Éphésiens chapitre 2. Ça, c'est tout le monde, ça, qui était comme ça, avant d'accepter Jésus. Il dit, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Vous voyez, qui conduit le monde? On a parlé un peu tantôt, là. Celui qui conduit le monde, c'est le diable. Puis quand quelqu'un n'est pas attaché au Seigneur, il est automatiquement guidé et conduit par le monde. Il y a un esprit de rébellion dans ce monde qui mène le monde dans l'égarement. Puis il dit que nous aussi, on était là-dedans au verset 3, ça dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Pourquoi qu'on était de leur nombre? Parce qu'on est venu au monde dans le monde, puis on a été mené par l'esprit du monde tant qu'on n'a pas arrivé à Jésus, puis se repentir. Puis là, tu sors du monde, tu rentres dans le royaume de Dieu. Il dit, on vivait autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Puis ça, c'est une vie naturelle. Vivre selon sa chair, puis c'est selon ses pensées, c'est la vie naturelle que tous les humains vivent, mais sans s'en rendre compte, sont menés par l'esprit de ce monde qui amène le monde toujours dans les choses du monde. Il n'amène pas le monde dans la présence de Dieu. Il dit, ça c'est naturel. Nous étions par nature, c'est là que ça le dit que c'est naturel, des enfants de colère comme les autres. Marcher sans Dieu, marcher sans Jésus, marcher sans le Saint-Esprit, marcher sans la parole de Dieu, marcher dans ce monde-là, tu marches dans l'aveuglement quand tu es en dehors de ce que Dieu donne. Ça faisait de nous des gens sans Dieu, sans espérance. On n'avait pas d'espoir. Même si on se bâtirait notre religion et on essaie de s'encourager qu'on va se sauver par nos œuvres, si t'es sans Dieu parce que tu marches pas dans communion avec lui, là, par son esprit, si t'es sans Dieu, t'es un égaré qui fait des efforts peut-être, mais t'es encore égaré, puis t'es perdu, sans espoir. Parce que l'espoir est donné par Dieu dans les conditions que Dieu a établies. T'as pas le choix d'adhérer à ce que Dieu a dit, puis de fonctionner de la façon que Dieu a dit. Mais il nous a restés libres. Il force pas personne. Il a établi les règles de la foi, comment rentrer, puis mettre notre foi en quoi, puis s'accrocher, là, qu'on s'accroche à lui. Puis ça, c'est son plan que lui a établi, puis les autres aujourd'hui, qui veulent vivre sans Dieu, vivent dans leur religion, selon leurs pensées, puis ils sont égarés, puis c'est une bande d'égarés, puis tout le monde s'en va sans espoir, s'en va dans la perdition éternelle. Dans Éphésiens 2:12, il dit, « Vous étiez dans ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Quand tu connais pas Jésus, t'as rien. T'as rien. Quand Jésus dit sans moi, vous pouvez pas rien faire, mais même encore, sans lui, t'es rien, t'as rien, puis t'es perdu. C'est ça. Il n'y a pas trois positions dans ce monde. Il y en a juste deux. Il y a ceux qui marchent avec Jésus, puis il y a ceux qui sont sans Jésus. Ils sont égarés. Étant des brebis égarées, nous étions perdus, puis notre châtiment, parce qu'on méritait le châtiment de la mort éternelle, autant qu'on était mort dans Éphésiens, dit, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. Il ne parle pas de la mort physique, tu es encore bien vivant physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Puis quand tu es mort, tu es déconnecté d'avec Dieu, c'est ça que ça veut dire, mort, c'est séparé. Tu es séparé d'avec Dieu spirituellement, si tu meurs dans cet état-là, c'est la perdition éternelle. Tu restes séparé pour l'éternité. C'est ça qu'il faut naître de nouveau. Il faut rétablir notre communion avec Dieu pendant qu'on est vivant. Puis après ça, demeurer en lui pour que lui demeure en nous. C'est une autre condition pour demeurer dans l'effet de la bénédiction de Dieu, puis dans ses sources, puis dans son salut. Mais il y avait un châtiment qui nous était destiné, puis ce châtiment-là, il est tombé sur le Seigneur. Pour qu'on puisse avoir une occasion, la seule opportunité d'être sauvé. C'est la seule bouée de sauvetage que Dieu a envoyée, c'est Jésus. La seule bouée de sauvetage. Il n'y a rien d'autre qui peut sauver que lui. Puis pas rien que nous sauver, nous conduire aussi dans son chemin. C'est juste lui. Dans Isaïe 53:6, ça dit, « Nous étions tous errants, comme des brebis. » Des brebis, mais pas n'importe quelle brebis. On était errants comme des brebis errantes. D'un troupeau de brebis errantes qui errent, qui ne sait pas où s'en vont. Chacun suivait sa propre voie. Mais là, l'Éternel a fait retomber sur le Messie l'iniquité de nous tous. Autant qu'on était perdus, Dieu nous a envoyé une bouée de sauvetage, puis c'est son fils Yeshua. Nous sommes maintenant tournés vers le berger puis le gardien de notre âme. C'est Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Quand tu te convertis au Seigneur, c'est autant que tu pouvais être égaré avant, là tu réalises que le Messie est mort pour prendre sur lui le fardeau de nos péchés, la conséquence de nos péchés. Là, il a subi la mort à notre place. Fait que là tu peux dire, je me tourne vers lui, je le prends dans ma vie, je le laisse rentrer, puis je lui demande de me conduire, puis je reste accroché à lui pour le reste de ma vie. Dans 1 Pierre 2,25, il décrit ça comme « Vous étiez des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger. » Le pasteur, c'est le mot berger. « Et le gardien de vos âmes. » Ça, c'est le Messie. C'est le Seigneur. Il n'y a pas d'autre manière que Dieu a offert. Puis il nous a donné cette opportunité-là, puis on l'a saisi par la foi. On s'est engagé, on s'est repenti, on demandait pardon au Seigneur, puis on lui a dit qu'on voulait changer de vie. Puis le Seigneur, il nous a acceptés dans son groupe. Il nous a rachetés, il a payé le prix pour nous racheter. On lui appartient maintenant. Notre appel a été clair, parce que là, pour qu'on puisse réaliser, c'est lui qui est venu nous voir et puis nous a dit « Suis-moi ». Parce qu'on n'aurait pas pu comprendre les choses de Dieu sans que l'Esprit de Dieu vienne nous les révéler. Si on comprend aujourd'hui que le salut par le Messie, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous l'a montré. C'est un appel qu'il a fait. Puis notre appel a été clair. Le Seigneur nous a invités en disant « Si vous voulez venir après moi », puis là, il a dit quelque chose dans Matthieu 16, 24. Jésus dit à ses disciples, il parle pas aux gens du monde, là. Il parle à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, ça allait où? Aller dans la vie éternelle, aller au ciel, aller dans le paradis de Dieu, être sauvé, c'est tous des synonymes. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il arrête de penser à vouloir faire sa volonté de sa chair et sa volonté de ses pensées, ce qu'on faisait avant d'être sauvé. Ça nous menait à la mort. Maintenant, on renonce à nous-mêmes, on charge de notre croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là, on parle de suivre Jésus. Parce que Jésus ne reste pas à la même place. Suivre Jésus, c'est un mouvement. T'avances. Parce que lui s'en va vers, en nous montrant le chemin, il marche devant nous. Là. C'est symbolique, là, c'est spirituel. Il marche devant nous, puis il veut qu'on le suive. Pas juste la journée que je l'ai accepté. Chaque jour, j'ai à faire face que Jésus veut me parler, veut me conduire, veut me dire des affaires, il veut me montrer des affaires, il veut m'utiliser. Fait que suivre Jésus, c'est une décision de chaque jour de s'engager à prendre notre croix, parce que Jésus, c'est encore un autre symbole. Quand il était pour la mort, ils ont donné une croix à porter, puis c'était sa croix d'humiliation, une croix de honte, une croix de souffrance. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Puis ça symbolise la même idée pour un chrétien. Tu prends ta croix, tu vas vivre des humiliations, tu vas vivre des honte, de la honte, tu vas vivre des souffrances, tu vas vivre des choses, puis tu peux même vivre la mort pour le Seigneur. Renoncer à toi et tes idées, prendre ta croix. Parce qu'on a tous chacun une croix qui nous est destinée. Un plan que Dieu a préparé. Lui, il a décidé... Pour Yvon, il y a un chemin que Dieu veut que Yvon prenne. Il a équipé Yvon pour qu'est-ce qu'il a à faire. Puis il veut que Yvon choisisse de prendre ce chemin-là que Dieu a pour lui. Puis on a chacun un chemin différent. Peut-être son chemin, c'est qu'on se rencontre à l'église à tous les semaines. Mais dans la semaine, on n'est pas ensemble. On a tout un chemin de croix à suivre en suivant Jésus. Puis on renonce à nous pour s'engager à dire « Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui, Seigneur? » Parce que tu veux suivre Jésus là où il veut t'emmener. Il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, tu peux marquer chaque jour, et qu'il me suive, car... » Là, c'est encore qu'est-ce que Jésus a dit. « Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. » Ça coûte quelque chose, suivre Jésus. Il peut te demander de le lâcher des affaires. Puis quand il te le demande, tu lâches. Tu perds des affaires, tu perds des droits, tu perds des choses qui auraient peut-être le droit, mais il ne veut plus que tu le fasses. Là, il faut que tu apprennes à dire « t'arrêtes ». Il y a des choses, c'est des péchés, ça c'est sûr, c'est tolérance zéro, mais il peut te demander de renoncer à des affaires que c'est même pas un péché. tout dépendant que qu'est-ce qu'il y a comme pour toi, là. Faut poursuivre Jésus, faut que tu sois prêt à avancer. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie va la perdre. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Là, il y a une autre vie qu'on se trouve à trouver. La vie de la communion avec le Seigneur dans des contextes qui n'auraient pas été les contextes si on aurait été nous autres mêmes. Parce que c'est lui qui nous conduit là. Toi, tu renonces, il va t'appeler à renoncer à certaines choses pour t'emmener plus loin, plus. Il ne veut pas nous conduire dans la misère inutilement, là. Tout ce que Dieu va nous conduire, c'est pour le mieux, spirituellement parlant. Il veut nous conduire ce qu'on soit le plus riche possible dans la vie éternelle. Il veut nous conduire premièrement dans la vie éternelle, mais en plus, il veut nous conduire qu'on soit dans la plus grande bénédiction pour nous. Dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, c'était pour nous enrichir spirituellement. Puis si Jésus, quand il est mort sur la croix, lui, il a dit « Tout est accompli », mais pour nous, c'est sûr qu'on peut pas dire qu'on a tout accompli ce que Jésus nous demandait. Cette valeur, ça veut dire qu'il avait prévu, lui, là, puis si on arrive là, ben, ça c'est si on n'arrive pas à cette hauteur-là à la place. Tu sais, ça dépend de comment est-ce qu'on le suit. Paul l'explique autrement dans un des versets. Il dit, celui qui aura construit sa vie chrétienne sur le fondement, sur le salut en Jésus, mais avec de l'or, du chaume, des pierres, puis de tout le kit, lui, il va passer comme au feu, puis il restera rien de ses œuvres, parce que c'est pour les choses terrestres de ce monde, puis ce qui arrive l'autre bord, il est comme sauvé, mais comme au travers du feu, il n'y a pas de récompense. C'est ça que ça dit dans le texte, noir sur blanc. Ça veut dire que si tu veux devenir riche pour le royaume, tu n'as pas le choix de renoncer, d'être à son écoute, de développer ce contact-là avec lui pour comprendre ce qu'il veut. Puis demander là, à chaque jour là, qu'il te montre, qu'il t'éclaire, qu'il t'enseigne, qu'il te conduise pour que tu puisses rentrer dans le plus d'œuvres possible pour lui parce qu'il veut t'enrichir. Mais ça coûte quelque chose. Il nous a donné des avertissements dans sa parole qui nous disent à quoi s'attacher. Quand tu es chrétien, là, on s'attache à beaucoup de choses dans ce monde. Il nous dit à quoi s'attacher puis à quoi ne pas s'attacher dans notre marche avec le Seigneur. Il veut nous conduire. Il y a des choses qui sont profitables pour le chrétien puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Même si c'est des choses que tu as le droit. Tu as un paquet de choses de base qu'il va demander à chacun. Si tu veux grandir, tu n'as pas eu le choix, faut que tu passes par là. Puis il y a des choses spécifiques pour chaque personne, tout dépendant du ministère dans lequel il t'a appelé, puis c'est pas pareil d'une personne à l'autre. Jésus a dit à Pierre, il dit, ils vont t'emmener, puis ils vont te tuer, puis là, Pierre, lui, s'inquiétait pour l'autre. Ouais, mais lui, qu'est-ce qui va y arriver? Il dit, toi, suis-moi. Laisse faire qu'est-ce que l'autre, si je veux qu'il reste jusqu'à temps que je revienne, ça c'est mon affaire. Toi, suis-moi. On n'est pas là à se comparer, on est là de faire ce qu'il nous demande. En nous donnant ces avertissements, ce à quoi s'attacher, puis ce qu'on ne devrait pas s'attacher, quand tu es chrétien, il nous donne ça en exemple pour dire que c'est aussi tranchant que ça, tu ne peux pas être ces deux bords partout, là. Luc 16, 13, il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Fait qu'il y a des choses que tu peux t'attacher, puis il y a des choses que tu ne peux pas t'attacher. Car où il haïra l'un, puis aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, puis méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça, c'est un exemple pour nous dire que quand tu es chrétien, il faut que tu décides qui c'est que tu veux suivre. Tu ne peux pas suivre les deux maîtres, l'argent puis Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas d'argent si tu es Dieu. Le point est que tu t'attaches pas à ça. C'est pas ton but. L'argent n'est pas ta mission. C'est être en communion avec Dieu qui est ta mission. Il peut te bénir puis être riche pareil, mais le point est pas. Et tu peux pas courir sur tout dans ce monde. Des choses où tu t'attaches, puis il y a des choses où tu rejettes. Les gens qui s'attachent aux idoles, ça, c'est sûr qu'ils vont être fall ball. Ils ne seront pas pardonnés. Dans Jonas 2:8, c'est ce que ça dit. Des fois, c'est 2:9. Il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Ça veut dire que c'est sûr que quand tu es décidé de t'engager à suivre Jésus, il faut que tu abandonnes tes idoles. Tu n'as pas le choix, là. Tu peux pas dire, je continue à pratiquer, à garder mes idoles quand que tu veux suivre Jésus. Tu peux pas. Si tu t'attaches à tes idoles, tu vas te perdre. T'éloigne de toi la miséricorde. Là, on va regarder quelques points que la Bible nous dit de faire attention quand tu es chrétien, des affaires qui nuisent aux chrétiens. Des choses qui nuisent aux chrétiens, c'est sûr que les idoles, puis pas servir deux maîtres, ça nuit carrément, mais il y a d'autres choses dans ce monde qui nuisent aux chrétiens, puis on se fait pas nos idées face à ces affaires-là. On va regarder certains points. Pas s'attacher à des fables. Dans 1 Timothée 1:4, ça dit de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le chrétien est mis en garde pour les fables. Les généalogies, on ne traite pas là-dessus trop, mais ça, c'est d'essayer de dire dans ton arbre généalogique, moi, je suis descendant d'un, descendant de l'autre, puis dans ce temps-là, les Juifs mettaient une importance là-dessus. Mais après ça, dans le Nouveau Testament, Paul, il dit pas s'attacher à ça. Les Juifs étaient trouvés ça important de savoir de qui le descendant, mais pour, dans le Seigneur, ça compte plus. Que tu sois fils de peu importe, si tu es repenti, tu es fils de Dieu. That's it. Le reste compte pas. C'est suivre le Seigneur. Les généalogies, si on oublie ça, mais les fables. Les fables, là, c'est des contes racontés avec des belles petites histoires pour donner des morales. Walt Disney en a plein, mais il y a les fables de La Fontaine. Ou les faux exemples que souvent les gens disent. Un tel, il a fait ça, puis il a fait ça, puis en réalité, si tu fouilles, il n'a jamais fait ça. C'est un mensonge. Il y a quelqu'un qui a inventé une affaire, puis ça amène du mensonge. Si tu dis que c'est une parabole, là, c'est une autre affaire, mais Jésus a parlé avec des paraboles. Mais de dire qu'un tel a dit ça, puis là, t'en faire une morale ou un point qui ferait de toi un point à mettre en pratique, mais c'est pas vrai. Il y a des dangers. Les fables, c'est pas la parole de Dieu. La cigale ayant chanté toute l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Là, tu comptes la fable, puis t'as-tu bâti ta vie chrétienne face à ça? Non. Bâti ta vie chrétienne face à ce que la Bible a dit. Avec des versets de la Bible. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Le reste, là, dans ce temps-là, c'était pareil. Le monde s'attachait à des fables, puis ça produisait des ostinations. Les fables et les généalogies produisaient des ostinations, amenant le monde à suivre des courants de pensée qui viennent du monde et non pas de la parole de Dieu. Là, j'ai dit ça, la fable de La Fontaine, mais il y en a d'autres points qui sont des sujets qui courent, même des sujets qui seraient des sujets d'actualité, là. Un, il est pour la guerre qui se passe là-bas, puis l'autre, il est contre la guerre qu'il y a là-bas, puis là, on en fait un sujet de discussion. On n'a pas besoin de bâtir notre vie sur ces choses-là. Même s'ostiner au point de vue de la politique, parce que la discussion, là, ça l'amène des divisions dans le corps de Christ. Dieu veut qu'on soit unis, qu'on marche ensemble, qu'on soit connectés, puis que la seule chose qui nous tient ensemble, c'est la parole de Dieu, puis notre amour pour Jésus, puis pour Dieu le Père. Quand il dit de ne pas s'attacher, c'est le mot que là, attacher, c'est amener vers. C'est comme tu amènes un navire à la terre, toucher terre, fixer son esprit, être attentif, porter de l'attention sur ces sujets-là. C'est ça qu'il dit, de ne pas porter de l'attention, de ne pas fixer son esprit, pas être attentif à ces idées-là courantes. Ce qu'on suit, nous autres, c'est ce que Jésus dit. Ça avance pas la foi. Ça ne nous fait pas avancer dans l'œuvre de Dieu, dans la foi, quand tu t'ostines ces sujets du monde. Une autre affaire qu'il faut faire attention, que ça ne dit pas s'attacher, c'est le culte des anges. Mais s'attacher plutôt au Seigneur. Dans Colossiens 2:18, ça dit, qu'aucun homme sous l'apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il abandonne, il s'abandonne à ses visions, puis il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps est assisté, est solidement assemblé. Voyez-vous, là, dans ce passage-là, ça parle de gens inspirés par des visions, par des songes, par des révélations, mais qui ne viennent pas du Saint-Esprit. C'est des esprits qui lui parlent. Les religions, c'est ça. C'est des esprits qui ont parlé. Quand c'est pas biblique, c'est pas le Saint-Esprit. S'il y a du mensonge, je peux être même d'une église évangélique, puis avec des points qui sont mensongers, ça vient de l'homme, puis ça vient d'inspirations qui sont pas de Dieu. Le culte des anges, suivre des religions, suivre des traditions humaines, suivre des choses qui sont qui tournent, t'amènent à dire que les anges, parce qu'il y en a qui vont prier les anges, même comme la religion Témoin de Jéhovah disent que Jésus serait un ange avant de venir sur terre. Tout ça, là, c'est faux. Jésus est Dieu, est sorti de Dieu, est issu de Dieu, puis il est remonté à Dieu, puis il a retrouvé l'omniprésence une fois qu'il a, puis la toute-puissance après qu'il ait été ressuscité. Jésus est Dieu, puis il dit, attachez-vous pas aux anges, attachez-vous pas aux doctrines, mais on va le voir dans d'autres versets, aux doctrines qui sont découlées de tous ces anges-là. Si on voit ça dans un autre passage, mais on le verra pas tout de suite, on va finir celui-là. Mais le point est que des fois, ça peut être le gars, il dit, il s'abandonne à ses visions. Puis il est enflé par ses pensées charnelles. Ça veut dire qu'il faut faire bien attention quand t'entends quelqu'un dire, Dieu me dit, faut que tu vérifies si c'est biblique, c'est-tu écrit? C'est-tu quelque chose qui est dans la pensée de Dieu ou c'est quelque chose de ses propres pensées? C'est pour ça qu'il dit de sonder les esprits. Ça dit aussi dans d'autres passages d'éprouver les prophètes où quelqu'un vient ici et il dit si, ça, ça. Oui, mais si s'il n'y a rien qui arrive, là, c'est pas de Dieu. C'était pas Dieu. Il y en a eu plein dans le monde. De l'évolution de ma vie chrétienne à moi, j'en ai entendu plein des faussetés dans des prophéties. Pour ça qu'aujourd'hui, je vais dire, il faut être prudent à ce qu'on entend, c'est-tu biblique? Puis on le voit, c'est vrai, par l'accomplissement des choses. C'est sûr qu'on peut dire, ah, oh, mais j'ai manqué de foi, puis je ne l'ai pas vu. Mais quand Dieu déclare qu'une chose va t'arriver, ça ne peut pas ne pas t'arriver. S'il dit que le monde s'en va dans perdition, ça ne se peut pas qu'ils n'iront pas dans perdition. Il y a des versets qui sont déjà dit que c'est ça, puis que tu ne peux pas tourner à côté de ça. Fait qu'il faut vraiment bâtir notre foi dans ce qui est vrai. Faire attention aux inspirations qui viennent, parce que tous les chrétiens en ont des inspirations du diable. Oups! Quand il dit résister au diable, c'est parce qu'il y a une inspiration qu'il venait de te dire, là. Puis donnez pas accès au diable, il y a encore une autre inspiration. Tu donnes opportunité au diable de pratiquer telle chose qui n'est pas de Dieu. Fait que des inspirations, là, tout le monde en a. Jésus en a eu. Le diable lui a dit, il y a trois tentations, mais ça dit aussi qu'il était tenté en toutes choses. Ça veut dire, il a parlé sur tous les sujets. Pour essayer de le faire tomber. Tout le monde en a, mais il faut être capable de faire attention, de commencer à rendre des cultes aux anges, parce qu'on pense que c'est le chemin de Dieu. Je connais je la connais pas personnellement, mais je l'ai rencontré, cette personne-là, puis je l'ai vue sur... Elle était dans le Seigneur, était prophète dans le Seigneur, puis elle m'en allait, elle a lâché son église pour s'en aller à l'église catholique, commencer à prophétiser par Marie. Ça veut dire que là, tu vois que le diable a traîné, hein? Il est rendu un culte des anges, culte des démons. Il nous dit aussi de ne pas s'attacher, faire attention au prochain aussi, pas s'attacher à la loi de Moïse pensant être sauvé par elle. Dans Galates 3:10, car tous ceux qui s'attachent, Tu vois encore l'attachement. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, puis ne la met pas en pratique. » Si tu dis, « Je suis sauvé parce que je pratique la loi de Moïse, » là, tu tombes sur une malédiction parce que c'est impossible que quelqu'un la mette toute en pratique. Puis le peuple juif sont comme cela, mais on sait que Dieu va les amener au Messie pour les sortir de cette pensée-là. Il en a déjà sorti plusieurs depuis le temps que Jésus est venu. Il y a plusieurs juifs qui ont suivi Jésus, mais il y en a encore d'autres qui vont se convertir dans pas long, une masse, qu'on s'attend à cela. Mais faire attention de ne pas s'attacher. Oui, on tire instruction. Ça dit que les choses ont été écrites pour notre instruction. Ça dit aussi de regarder la nuée de témoins qu'on a, qui sont écrits dans la Bible. C'est ça qui était l'idée. Oui, on tire des instructions, mais c'est pas qu'on suit la loi de Moïse pour être sauvé. Il y a une différence. Voyez-vous? On est sauvé par la foi dans le Messie. On a mis notre foi, on suit le Seigneur. C'est lui qui est notre sauveur. On est sauvé grâce à lui. Puis on veut rester attaché à lui et non pas attaché encore aux autres choses, qui est comme la loi de Moïse. Il y a un autre avertissement, de ne pas s'attacher aux doctrines qui viennent du diable. Ça découle un peu de la même qu'on a lu tantôt, de ne pas arriver au culte des anges. Là. Mais parce que c'est écrit, puis quand Paul écrit ça, là, ça dit dans 1 Timothée 4.1, « L'Esprit dit expressément... » C'est une précision que l'Esprit de Dieu a donnée à Paul sur la fin des temps, puis à propos des chrétiens dans la fin des temps. C'est depuis 120 ans à peu près qu'il y a un mouvement de réveil par le Saint-Esprit, mais qu'il y a aussi un mouvement d'imitation, de fausseté, puis d'œuvre qui ne vient pas du Saint-Esprit. Je ne veux pas vous faire une énumération, mais il y a des choses qui se produisent, puis les religions sont là aussi en témoignage de ce qui ne vient pas du Saint-Esprit, là. Mais le Saint-Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est grave, là. T'es dans la foi, Jésus dit, demeure en moi, mais ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. C'est quoi ça? Des religions. La personne que j'ai mentionnée tantôt, c'est quelqu'un comme cela. Elle a abandonné la foi, puis elle a été séduite. J'en connais un autre pasteur que j'ai écouté son témoignage. Lui était un pasteur d'une église Pentecôte. S'est converti au catholicisme, puis il était rendu qu'il priait Marie. Mais il n'y en a pas un qu'un, il y en a plein. Là. Il y en a plein, je donne ça un comme exemple, que je l'ai vu, son témoignage, il le racontait sur YouTube, puis il se vantait de ça. Hey, là, il est perdu. Il s'est attaché à des esprits séducteurs. Il n'y a aucune place dans la Bible qui nous dit de prier Marie. Les chrétiens doivent s'attacher au Seigneur seul. Puis prier que le Seigneur seul. Servir que le Seigneur seul. Ça, c'est des esprits qui séduisent, qui trompent. Parce que tu sais, quand on dit qu'on marche par l'esprit, puis si tu ne tiens pas dans tes mains la Bible pour le guide, tu tosses la Bible, là, tu peux écouter n'importe quel esprit te parler, tu penses que c'est le Saint-Esprit. Tu penses que c'est le Saint-Esprit. Tu vas vivre une expérience, ton corps va se mettre à shaker, là, puis tu penses que c'est le Saint-Esprit. Si c'est pas fait dans le cadre comme Dieu le dit, c'est pas le Saint-Esprit. Il y en a d'autres esprits qui sont capables de te faire shaker. J'ai vu une vidéo, moi, avec dans à peu près une couple d'années, là, quand c'était en temps que la bénédiction de Toronto, puis il y avait des manifestations surnaturelles, le monde était à quatre pattes, puis il faisait le chien, puis il se levait la jambe pour faire semblant de pisser sur une jeune chaise, pour faire le serpent à terre. C'est pas des farces, qu'est-ce que je vous dis là. Je les ai vus de mes yeux, ces affaires-là. Mais j'ai vu les mêmes phénomènes se produire dans un culte musulman. Que c'était les musulmans qui chéquaient comme ça. J'ai vu les mêmes phénomènes se produire dans le Kulam Deli. C'est une science orientale, l'éveil du serpent qui appelle ça, comme si le serpent rentre dans ta colonne vertébrale. Puis, ils vivaient les mêmes affaires, les jerks, puis toute la patente. C'est un autre esprit. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Jésus et son esprit. C'est des esprits qui rentrent parce que le monde accepte de se faire imposer les mains par tout le monde. Là. Puis là, ils s'injectent. On a vécu ces expériences-là, puis on a chassé de ces esprits-là. Si vous voulez savoir qui aller voir, vous viendrez me voir, je vous dirai s'ils veulent que je le dise. Qu'il y en a que je connais, des proches qui ont vécu des affaires, puis s'ils veulent leur rendre témoignage, ils peuvent le dire eux-autres même en levant la main. Qu'ils ont vécu ça, puis ça s'enlevait dans leur vie, par l'autorité du nom de Jésus. Tu peux pas chasser le Saint-Esprit, là. Tu chasses des esprits, puis ça part. Fait que, faut faire bien attention, ça dit que c'est dans, expressément que c'est dans les derniers temps. C'est quand ça? C'est dans nos temps actuels. Il y a des esprits qui séduisent, puis il y a des doctrines, des enseignements faits par les démons. Des enseignements qui viennent inspirés par le diable et ses démons. Pour comment tu fais pour les différencier? C'est-tu écrit dans la Bible? Si c'est pas écrit dans la Bible, ça vient pas de Dieu, tout simplement. C'est de même qu'on tranche ça, c'est la parole qui est notre guide. Maintenant, il y a certains versets, là, on a regardé quelques versets, de faire attention, de pas s'attacher à certaines choses. Là, il y a des versets qui nous disent de s'attacher à d'autres choses quand t'es chrétien. Si tu veux plus de Jésus dans ta vie, ben, à quoi faut que tu t'attaches? Dans 1 Corinthiens 7:35. L'apôtre Paul est en train d'expliquer que je dis ça dans votre intérêt. C'est pas pour vous prendre au piège. C'est vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Le but, quand tu es chrétien, faut t'arriver à t'attacher au Seigneur sans être distrait. Ça veut dire, toute ton attention est envers le Seigneur. Toute ton attention est envers plus de Jésus, être à l'écoute de Jésus, marcher avec Jésus, être guidé par Jésus. S'attacher sans distraction, c'est le top. Une vie, tu es toujours dans le Seigneur. Tu penses toujours au Seigneur, tu médites sa parole, tu es avec lui, tu cherches rien d'autre. Et tu veux pas savoir les autres affaires, tu veux juste savoir les choses qui viennent de Jésus, qui viennent de Dieu, qui viennent du Saint-Esprit. L'attachement au Seigneur doit être complet. Il veut toute notre attention. Ça veut dire que si on néglige, on veut pas, on est en train de se priver de ce qu'il avait prévu qu'on fasse dans notre vie chrétienne pour rester connecté. Dans Marc 12, 30, ça dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Où c'est qu'on devrait mettre toute notre attention, sinon qu'on la met sur le Seigneur? Sans distraction. Une attention continuelle à penser au Seigneur. Tu peux même te réveiller à la nuit, penser au Seigneur, penser à sa parole, prier le Seigneur. En te levant la nuit, tu te lèves le jour, tu repenses encore au Seigneur. Tu es en train de travailler, tu penses encore au Seigneur. Tu es en train de te laver, tu peux penser au Seigneur. Tout ce que tu fais, tu peux penser au Seigneur tout le temps. Ton attention, si tu es attaché de même au Seigneur, tu n'en perdras pas de bout dans ta vie chrétienne. Tu vas toujours rester connecté. Tu vas toujours être dans le meilleur de ce que tu pouvais être. Si toute ton attention est là. Vous avez le droit de dire « Amen ». Lorsqu'un chrétien est attaché au Seigneur, il devient un avec lui. Dans 1 Corinthiens 6, 17, ça dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ». Tu vois que tu t'attaches sans distraction, toute ta concentration est là-dessus. Si tu t'attaches au Seigneur, tu es un avec lui. Tu es un seul esprit. Comme le contraire, on pourrait dire, si tu t'attaches pas, tu peux pas avoir un. Tu vas avoir ton esprit, tes idées, tes passions, tes buts, tes convoitises, tes pensées charnelles, tes pensées de ta volonté, puis tu vas marcher dans ta volonté malgré que tu es né de nouveau. On s'attache quand on conduit notre véhicule, mais quand on marche dans le Seigneur, il faut s'attacher aussi. Là, ça dit, pour t'attacher au Seigneur et être un avec lui, ça dit, fuyez l'impudicité. Là, il nomme un péché. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et que vous avez reçu de Dieu, et que vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Un chrétien ne s'appartient plus. Le Saint-Esprit nous a été donné, c'est un don qui vient de Dieu, puis notre corps devient le temple du Saint-Esprit. On est le temple du Saint-Esprit, puis... Il dit, vous avez été rachetés pour que Dieu nous habite. Puis là, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartient à Dieu. Notre attention est là, mais de même, si tu focuses là-dessus, tu vas glorifier Dieu dans ton corps et ton esprit qui appartient à Dieu. Dieu veut que ses enfants s'attachent aussi, parce que l'on disait de s'attacher au Seigneur, sans distraction, mais il veut qu'on s'attache aussi à sa parole. À ses paroles, parce qu'on dit sa parole, parce qu'on parle de la Bible, mais c'est à ses paroles, dans tout l'ensemble des paroles que le Seigneur nous a amenées. Dans 1 Timothée 6:3, il dit « Quelqu'un enseigne de fausses doctrines ». Et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a vraiment deux mondes. Il parle des fausses doctrines, puis les saintes paroles. Puis il dit, il faut que tu t'attaches aux saintes paroles. Puis toutes les faussetés, les fausses doctrines, faut tasser ça. Là, il dit, si quelqu'un enseigne ces fausses doctrines-là, puis il nomme pas de nom, là. C'est n'importe quel pasteur, n'importe quel ancien qui prêche des faussetés. Ces fausses doctrines-là. Si quelqu'un enseigne ces fausses doctrines puis s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ puis à la doctrine qui est selon la piété, il dit qu'il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, puis il a la maladie des questions oiseuses puis des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Quelqu'un qui s'attache pas à la parole de Dieu, là, puis il se met à prêcher des fausses doctrines, il sait rien. Faut être attaché à la saine doctrine. Faut que ça soit comme une priorité. On le dit, quand tu te convertis au Seigneur, le Seigneur, l'Esprit va t'enseigner toutes choses. Quand est-ce qu'il va t'enseigner toutes choses? Premièrement, quand tu commences à t'intéresser à lire la Bible. Si tu ne lis pas, comment tu veux apprendre? Il veut t'enseigner, mais si tu la lis pas, si tu vas pas à l'église pour aller écouter les messages, il t'en manque des gros bouts, des grands bouts dans ta vie, d'instructions que Dieu t'aura donné. Si tu vas pas la lire, puis tu la médites pas, ce que tu lis, ça c'est là tu viens que tes pensées sont dans quoi, là, si tu penses jamais à ce qui a été écrit. Puis si tu vas pas à l'église, comment tu fais pour te nourrir si tu lis pas la Bible? C'est quoi tu veux suivre en fin de compte? Si tu veux t'attacher au Seigneur sans distraction, tu n'as pas le choix d'être attaché aussi à sa parole pour tasser les faussetés, puis que tu puisses... Tu sais, le Seigneur va agir en nous, demeurant en lui, mais si on veut demeurer en lui, puis lui en nous, pas le choix de garder ce que lui a dit. C'est ça la base de notre relation, dans notre alliance qu'on a avec lui. Les chrétiens doivent aussi s'attacher fortement à une autre affaire. Fortement. S'attacher à faire le bien. Parce qu'on a plein de choix dans la vie, dans les choses qu'on fait. Puis c'est sûr qu'on va avoir des combats, on va avoir des difficultés, tout ça. Mais faut toujours revenir et puis à être fortement attaché à vouloir faire le bien. Si tu veux demeurer en Jésus, tu peux pas volontairement faire le mal sans attrister ta communion avec l'Esprit-Saint. Dans Romains 12, 9, il dit que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Tous les chrétiens doivent être, tu veux marcher avec le Seigneur, fais le bien, attache-toi au bien, éloigne de toi tout mal. Parce que ça l'attriste le Saint-Esprit. Ça brise ta communion. Le péché met un voile entre toi et Dieu. Puis des fois, c'est plus un voile, c'est un mur que tu as entre les deux, tellement qu'il est rendu épais. Puis souvent, notre éloignement est dû soit par négligence ou soit qu'on marche dans des choses que Dieu veut pas. C'est la base. Quand on regarde, il dit s'attacher fortement au bien, le mot attaché que là, c'est d'être collé, lié, cimenté, assemblé ensemble, que ça soit quelque chose qui est en toi, que tu décides tout le temps de faire le bien. Comment est-ce qu'il y en a ici qui aime ça, faire le bien? Mais faites le bien, bien. Faites bien le bien. Attachez-vous au bien. Puis je finis avec un dernier verset. Il nous encourage aussi à nous attacher à notre service pour lui, selon notre appel. Comme je l'ai dit tantôt, chacun a sa croix, chacun a un appel de Jésus. Si tu veux demeurer en lui, puis tu veux que ta vie soit productive, il faut que tu focuses sur lui, tu gardes sa parole, tu es attaché à bien faire, mais il faut aussi que tu t'attaches au service, à l'appel qu'il a mis sur ta vie pour servir le Seigneur. Peu importe qu'est-ce que c'est comme service. Dans Romains 12, 7, ça nous dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne, même quand tu donnes, tu peux être une personne que Dieu a choisi pour être un pourvoyeur dans l'œuvre de Dieu. Tu donnes, faut que tu le fasses avec libéralité, c'est avec générosité. Puis que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voyez-vous, peu importe ce qu'on est en train de faire, c'est un appel que Dieu fait. Il veut qu'on s'attache à l'appel qu'il nous a montré, puis qu'on se donne pleinement de tout notre cœur en marchant à son service pour le glorifier. Si on demeure dans ces attachements-là, puis on s'éloigne de ce qu'il nous dit d'être détaché, tu vas demeurer en lui, puis lui en toi. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations. Continue à graver ces choses dans nos cœurs. Qu'on ait toujours un cœur voulant s'attacher de tout notre cœur envers toi. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Tu nous as rachetés, on t'appartient, tu nous as donné ton esprit. On veut marcher avec toi, en toi, puis demeurer en toi. Continue à graver ces choses dans notre cœur, puis qu'on soit des gens bouillants pour te servir et te suivre. On remet nos ventres à tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen. Amen.